L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct de la porte de Versailles à Paris pour le salon AMIF, Association des maires d'Île-de-France, édition 2023. On va parler économie sociale et solidaire, on dira ESS, on va utiliser l'acronyme, avec notre invité Florentin Letissier. Bonjour Florentin.
Bonjour.
Donc vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de l'ESS, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. On va parler de ces différents points. Mais une question en préambule, on a l'impression que sur l'économie circulaire, voilà l'économie sociale et solidaire, tout est en train de s'accélérer en ce moment, que les entreprises vraiment se mobilisent de plus en plus. Est-ce que c'est prise de bonne conscience ou des normes qui sont là pour qui se sont renforcées sur ces sujets?
Je pense qu'il y a les deux. Les entreprises, elles sont comme tout le monde. Elles voient qu'il y a une urgence écologique. Elles voient aussi qu'il y a des publics qui sont en difficulté sociale et donc elles veulent prendre leur part. Et donc c'est vrai que sur ces deux volets, le social d'un côté et l'environnement de l'autre, elles avancent plus ou moins fortement. D'ailleurs, chacune à leur rythme. Nous, on encourage toujours évidemment le fait d'aller le plus vite possible. Mais c'est plutôt assez positif, oui. Je vous rejoins.
D'accord. Alors sur Paris, justement, comment ça se présente voilà, vous qui êtes au cœur de ces sujets, comment vous accompagnez justement les entreprises, les acteurs de la vie locale?
Alors moi, dans le cadre de ma délégation, donc à l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, je verse en gros des aides économiques à des acteurs qui sont particulièrement engagés sur un certain nombre de projets sociaux et environnementaux. Je vous donne un exemple très concret. Les entreprises d'insertion, oui. Elles ont pour objectif de faire travailler des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi, donc des bénéficiaires de minima sociaux, des personnes en situation de handicap, des jeunes faiblement diplômés par exemple. Et grâce au fait de redonner finalement un emploi, de leur permettre de se réinsérer dans la société. Et donc nous, on a des enveloppes économiques à destination de ces acteurs-là pour les aider justement à se développer.
Voilà, vous favorisez ça en quelque sorte. Elles sont aidées financièrement, hein, c'est ça? Alors, c'est contrôlé, c'est pas du déclaratif. Vous allez voir, comment ça se passe?
En fait, elles ont un statut déjà juridique, hein, oui. qui font qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Et nous, c'est vrai que juridiquement, c'est des questions de droit de la concurrence, mais en gros, juridiquement, nous, les collectivités, on a plus de possibilités d'aider financièrement ces acteurs-là parce qu'on n'est pas sur le marché concurrentiel classique.
D'accord.
Donc on le fait justement parce que c'est des missions d'intérêt général et puis on a d'autres moyens de les aider. On peut les aider à accéder à des locaux, par exemple, de nos bailleurs sociaux, puisqu'on a des locaux d'activité dans le parc des bailleurs sociaux. Et puis tous les relais de communication sur les réseaux sociaux, le fait d'aider aussi à l'organisation d'événements pour les faire connaître du grand public.
On a l'impression que justement la mairie de Paris est très engagée sur ces sujets.
Oui, en tout cas, on essaie de faire le maximum. Et ce qui est très positif, et on en parlait juste avant l'antenne, c'est qu'il y a aussi les entreprises classiques, y compris les grosses entreprises, qui travaillent de plus en plus avec ce secteur de l'insertion par l'emploi, qui contractualisent dans le cadre de leur politique RSE. Et nous, si on peut aussi aider à faire le pont entre ces grandes entreprises classiques, notamment, je parlais tout à l'heure au salon des Jeux Olympiques et Paralympiques, où il y a des grandes entreprises donneuses d'ordre, et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'ils travaillent ensemble et que tout le monde y gagne et que la société y gagne, et bien évidemment on va pas s'en priver, c'est ce qu'on fait.
C'est le fil rouge d'ailleurs de cette édition AMIF 2023, le sport et puis évidemment la ville de Paris est mobilisée à 200%, on imagine à moins d'un an pratiquement des JO. C'est vrai que c'est un travail colossal. Comment on prend cette dimension justement économie circulaire, économie sociale et solidaire? On a vu des annonces sur les bouteilles, le recyclage, etc. On sent là aussi, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, très novatrices et assez inédites.
Oui, alors peut-être deux exemples très concrets. Le premier, c'est, vous savez, le seul équipement sportif intramuros qui a été construit pour ces Jeux Olympiques, c'est l'aréna à la Porte de la Chapelle. Il y a eu des clauses, ce qu'on appelle des clauses d'insertion, qui font que pour la construction de ce bâtiment, on a fait appel aussi à des entreprises d'insertion, et c'est 110 000 heures d'insertion qui ont été utilisées pour la construction de ce bâtiment, donc c'est des heures de travail par des personnes en insertion, donc ça c'est très concret. Et puis un exemple sur le volet environnemental, vous savez qu'on va avoir plus de 3 millions de personnes qui vont venir sur Paris dans le cadre de ces Jeux pour assister à l'événement. On va avoir beaucoup donc de ventes à emporter, notamment de ventes alimentaires, et nous on soutient beaucoup ce qu'on appelle maintenant les solutions de consigne pour réemploi, c'est les contenants réutilisables, oui. Avec nos réseaux de commerçants, de restaurateurs, avec aussi les fan zones qu'il y aura sur l'espace public, et ça encore c'est des acteurs économiques engagés qui proposent des solutions très concrètes.
Ça participe aussi de votre stratégie zéro déchet. C'est pas évident dans une capitale comme Paris, vous l'avez dit, avec des millions de touristes qui viennent et puis ils reviennent en nombre. On peut le dire depuis cette année, on sent la différence par rapport à l'après-crise sanitaire.
Oui, alors le zéro déchet, c'est une utopie. Hein, parce qu'on n'arrivera jamais au zéro déchet, mais ça nous pousse à dire qu'il faut toujours moins de déchets. Et c'est des actions très simples et très concrètes. Par exemple, quand la ville de Paris déploie des fontaines d'eau potable sur son espace public, les gens, ils ont leur gourde, on les incite à avoir leur gourde, ils vont remplir la gourde sur l'eau potable de la ville.
D'autant que l'eau de Paris est très bonne, hein, on confirme.
Oui, je trouve. Enfin, je pense que beaucoup de gens parisiennes et parisiens boivent l'eau de Paris. Et donc voilà, on est sur du concret. Et en faisant ça, on évite énormément de bouteilles plastiques à usage unique, comme on dit.
Ouais. Florentin Lotissier, un mot sur l'économie circulaire. On voit aussi que, vous l'avez dit, hein, les entreprises se mobilisent. C'était quelque chose qui n'était pas forcément, dans leur mœurs, dans leur ADN, de penser justement recyclage des déchets, des chantiers, etc. On voit que les promoteurs qui nous entourent sont de plus en plus conscients de ce phénomène et même obéissent désormais à des réglementations assez strictes. Il y a une obligation maintenant de tracer ces déchets et pour l'économie du bâtiment.
Oui, alors effectivement, la réglementation sur le secteur immobilier, elle est de plus en plus forte. Et c'est bien. Et je sais qu'il y a aussi des acteurs qui disent ça va peut-être un peu trop vite. Mais je pense qu'en fait, sur ces questions-là, ça va jamais assez vite. Par contre, l'enjeu derrière, c'est pas juste de mettre des normes. C'est aussi d'accompagner les acteurs, de les aider à trouver des solutions. Et nous, par exemple, à la ville de Paris, sur ce secteur de l'immobilier, on est en train de travailler un grand projet de ce qu'on appelle le hub du réemploi, qui devrait notamment voir le jour sur le quartier de Bercy, le nouveau quartier qui va sortir à Bercy. Et très concrètement, pour les acteurs immobiliers, c'est un lieu où vous pourrez mettre beaucoup de gisements. Vous savez, quand vous faites de la déconstruction, des gisements de chantier, vous pourrez les mettre sur ce site-là et ça pourra être ensuite, les différents gisements, ils vont être triés, donc par exemple les fenêtres, les radiateurs, les cloisons, etc., pour après être remis dans des filières de réemploi et de recyclage. Donc on voit bien que sur ce secteur du bâtiment, mais les acteurs y vont déjà. Je vois un certain nombre de grandes entreprises qui sont très engagées parce que ça leur fait faire des économies aussi. Quand on voit le prix maintenant des matières premières neuves, mieux vaut travailler sur des solutions de récupération, de réemploi de matériaux déjà existants.
Mais voilà, rien ne se crée, rien ne se...
Tout se transforme.
Hein. Rien ne se jette aussi, ça pourrait être bien d'enfin l'appliquer, parce que c'est vrai qu'on redécouvre finalement ces matières, et puis même à l'échelon, des Parisiens eux-mêmes, hein, avec les poubelles de tri. Alors la poubelle jaune s'est améliorée, on aura bientôt une poubelle marron début 2024 pour faire ces tri de déchets alimentaires qui seront utilisés dans les méthaniers, c'est bien ça?
Alors sur les biodéchets, la solution qui va être priorisée, c'est plutôt ce qu'on appelle les points d'apport volontaires, donc c'est-à-dire en gros des bacs.
On n'aura pas un bac dans chaque...
En tout cas, il y en aura peut-être dans quelques quartiers où il y aura encore quelques expérimentations, mais on sera plutôt sur des collecteurs collectifs, notamment dans un certain nombre ou à proximité d'équipements publics, et ça va être déployé progressivement pour effectivement avoir plus en plus de biodéchets qui soient traités en tant que tels, parce qu'aujourd'hui, c'est 30% de la poubelle quand même, les biodéchets. Oui. Donc si on les traite bien à côté et qu'on fait du compost ou qu'on fait de la méthanisation pour faire du biogaz, c'est beaucoup mieux pour l'écologie.
Alors qu'aujourd'hui, on détruit ou on incinère?
Voilà, c'est du gaspillage. Aujourd'hui, on brûle des déchets organiques qui pourraient servir à faire du compost, par exemple.
Voilà, et on a des objectifs là-dessus, parce que je sais qu'il y a eu des expérimentations. Effectivement, le bac individuel n'a pas marché pour plein de raisons, les odeurs, les gens qui ne se mobilisent pas. C'est pour ça qu'on est passé sur une solution collective. Ça peut être, en tout cas, les premiers tests sont plutôt concluants.
En tout cas, ce qui va être développé très forcément à partir de 2024, c'est plutôt des solutions collectives. Je ne pense pas que, mais ce n'est pas moi qui suis en charge directement de ce dossier, c'est ma collègue à la propreté. Je ne pense pas que les solutions bac individuelles vont être complètement abandonnées, mais c'est vrai que sur un certain nombre de quartiers, on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément des bonnes pratiques, que ça posait des problèmes aussi peut-être dans les parties communes de certains immeubles. Et donc, de toute façon, il faut aller sur un mélange de solutions. Il faut avoir plusieurs
solutions.
Il n'y aura pas une seule solution. L'important, c'est d'aller le plus loin possible dans les tonnages qu'on pourra collecter sur ces biodéchets.
Voilà. Donc, le zéro déchet, on l'a compris. On en produit tous les jours, évidemment. Mais si on arrive à les valoriser, comme on dit, là, le pari sera gagné.
Tout à fait.
Merci Florent Lotissier. Je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de l'ESS, la fameuse économie sociale et solidaire, l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Merci d'être passé par
là. Merci à vous.
À très bientôt.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.